Les deux orphelines, première partie, chapitre 12. Tandis que la scène entre la famille Frochard se déroulait sur la place publique, les grelots du coche de Normandie faisaient entendre leur carillon. Le conducteur enlevait ses bêtes avec de vigoureux claquements de fouet. Enfin, la lourde voiture décrivit une courbe et vint s'arrêter devant la porte du bureau. Les employés, qui attendaient depuis longtemps, avec impatience, car le coche était en retard, se précipitèrent aux portières pour aider les voyageurs à descendre. Alors commença le traditionnel concert des commissionnaires. « Faut-il porter vos bagages ? Laissez-moi vous soulager de ce paquet, madame. » Puis les cochers. « Demandez un fiacre. » Et d'autres. « Faut-il une chaise à porteur ?» Et comme tout ce monde encombrait les abords du coche, le conducteur continuait à faire claquer son fouet en criant. « Gare là ! Gare ! Laissez au moins descendre les voyageurs !» Au moment où Henriette et Louise débarquaient à Paris, où devait les attendre M. Martin, il n'est pas sans intérêt de savoir ce qui était arrivé à cet excellent homme, depuis que la fleur était parvenue, ainsi qu'on l'a vu, à s'en débarrasser au moyen d'une forte dose de narcotique. Aussitôt, après le départ du valet du marquis de Presles, le cabaret s'était vidé peu à peu. Mais le garçon, auquel la fleur avait donné un bon pourboire pour qu'il le prévînt lorsque son soi-disant ami s'éveillerait, le garçon, disons-nous, n'avait eu garde de troubler le sommeil du gros homme qui ronflait comme une véritable toupie d'Allemagne. « Dors, mon bonhomme !» avait-il répété à mi-voix chaque fois que son service l'avait amené auprès du dormeur. « Dors, tant qu'il te plaira, ce n'est pas moi qui te dérangerai. » Pendant les 2 heures suivantes que dura l'effet du narcotique, l'honnête bourgeois se vit, dans son paisible rêve, assistant à l'arrivée du coche, dont il faisait descendre 2 charmantes jeunes filles. Il les conduisait, tout joyeux, dans son logis, où s'empressait de les installer la bonne Madame Martin. Puis venait l'heure du souper, le récit de ce long voyage d'Évreux à Paris, et la soirée s'écoulait tout entière en une douce causerie qui remplaçait très avantageusement, aux yeux de M. Martin, l'éternelle partie de tric-trac. Et lorsqu'enfin le brave homme s'éveilla, lorsqu'il put secouer l'engourdissement de ses membres et la stupeur de son esprit, les événements que nous allons raconter avaient eu le temps de s'accomplir et de lui faire perdre, pour toujours, la trace des 2 orphelines. Le coche d'Évreux était arrivé depuis quelque temps déjà. Tous les voyageurs étaient descendus de la voiture, les uns se retirant à pied, d'autres montant dans les fiacres avec leurs paquets et des enfants. Quelques dames avaient pris des chaises à porteurs. Chacun avait naturellement hâte de regagner qui son domicile, qui l'hôtel ou l'auberge où il avait l'habitude de descendre. Au bout de 10 minutes, il ne restait plus devant le bureau que 2 jeunes filles dont personne ne s'était occupé jusqu'à ce moment et qui paraissaient attendre, avec anxiété, l'arrivée de quelqu'un. L'une d'elles regardait en effet tantôt dans la direction du pont Neuf, tantôt sur le quai de Conti. Puis, fatiguée de ne pas voir venir la personne attendue, elle reportait brusquement ses yeux d'un autre côté, fouillant du regard aussi loin que pouvait porter sa vue ce qu'elle apercevait de la rue Dauphine et du quai des Augustins. À chaque instant, son attention était détournée par un commissionnaire qui venait lui offrir ses services ou un cocher qui lui proposait sa voiture. Mais elle refusait poliment, disant « Merci, nous attendons quelqu'un ici. » Cependant, le temps s'écoulait. « Tu n'aperçois donc pas ce monsieur Martin ?» demanda tout à coup une des voyageuses. « Dis-moi, Henriette, ne trouves-tu pas qu'il tarde bien à venir ?»« C'est vrai, ma Louise, mais ne t'impatiente pas trop. Lorsque l'on attend, le temps paraît toujours plus long. » « Mais il me semble qu'il y a au moins une demi-heure que nous sommes ici. »« Il n'y a pas encore un quart d'heure, ma Louise. »« Tu crois ?» Et la jeune fille poussa un soupir. « Tu t'ennuies ?» fit Henriette. « Que veux-tu ? Je n'ai rien pour me distraire, moi. Et je t'avoue que tout ce bruit qui me bourdonne dans les oreilles me met le cœur tout en émoi. Je me sens perdue dans une immensité dont je ne peux pas mesurer l'étendue. Et malgré moi, j'éprouve une impression... de peur ? Que peux-tu craindre ? Ne suis-je pas auprès de toi, comme un guide sur lequel tu peux compter ? Instinctivement, Louise s'était rapprochée de sa compagne et lui serrait le bras. Puis, comme si elle eût voulu détourner la conversation de ce sujet à Tristan.
C'est égal, Henriette, reprit-elle au bout d'un instant. Je ne comprends pas que ce monsieur Martin nous fasse ainsi attendre. D'ordinaire, en pareil cas, on doit plutôt être un peu en avance.
C'est vrai, ma chérie. Seulement, je crois que depuis Versailles, les chevaux ont marché très vite pour rattraper le temps perdu. C'est du moins ce que j'ai entendu dire au conducteur.
Louise sembla s'être contentée de cette explication, car elle garda le silence. Seulement, ses mains, appuyées sur le bras d'Henriette, s'agitaient fiévreusement.
Pauvre aveugle! Si elle eût pu se rendre compte que le jour commençait à baisser, que la place commençait à se dépeupler, que depuis longtemps déjà les derniers voyageurs du coche étaient partis, emmenés par les parents ou les amis qui étaient venus à leur rencontre, si elle avait pu voir qu'il n'y avait plus de fiacres à la station, plus de chaises à porteurs, et que les commissionnaires eux-mêmes avaient disparu. Certes, elle eût compris pourquoi son cœur se serrait, pourquoi elle avait peur dans ce Paris où elle venait d'arriver. Henriette comprit-elle ce qui se passait dans l'esprit de l'aveugle? Eut-elle un pressentiment de l'inquiétude qui dévorait sa compagne? Toujours est-il qu'elle voulut, par un moyen quelconque, distraire Louise, ne fût-ce que pour lui faire prendre patience.
« Tiens, dit-elle, faisons quelques pas. Il y a tout près d'ici un banc sur lequel nous pourrons nous reposer, en attendant Monsieur Martin qui ne peut plus maintenant tarder beaucoup à venir. »«
Je le veux bien, dit Louise simplement en se laissant guider vers le banc.
« Assieds-toi près de moi, Henriette, bien près, bien près. »
« Voyons, tu n'as pas peur, je suppose. »«
Non, pas pour le moment, mais... »«
Mais quoi, ma chérie? Si Monsieur Martin ne venait pas, par exemple ?»«
Voyons, Louise, c'est une plaisanterie. Quelle drôle d'idée t'arrive là !»
L'aveugle essaya de sourire, sachant que sa compagne devait la regarder en ce moment. « En tout cas, » reprit Henriette d'un petit ton décidé, qu'elle savait prendre quelquefois, « n'es-tu pas sous ma protection ?» Or, je ne suis pas embarrassée, tu le sais, et...
Malheureusement, soupira Louise, nous ne connaissons pas l'adresse de Monsieur Martin.
On a cru inutile de nous la donner, puisque ce monsieur doit venir nous attendre, dit Henriette, et cherchant à tromper l'inquiétude de sa sœur en occupant son esprit.
Oh, que c'est beau Paris,
s'écria-t-elle en serrant dans les siennes la main que Louise lui avait abandonnée. Comme c'est beau et comme c'est grand! Ah, que tu es heureuse de pouvoir en juger par toi-même, puis avec un soupir étouffé.
Dis-moi ce que tu vois, petite sœur. Où sommes-nous d'abord?
Elle avait rapproché sa tête et ses boucles blondes frôlaient presque la joue d'Henriette. Celle-ci lui adressa un regard où se lisait toute la sollicitude dont elle entourait cette pauvre créature si cruellement éprouvée. Si Louise eût pu voir l'expression de ce regard tout rempli de tendresse, elle eût sauté au cou d'Henriette pour la remercier.
« Dis-moi tout ce que tu vois, tout, entends-tu? Où sommes-nous ? »
« Tout près d'un beau pont avec des petites maisons de chaque côté et une statue au milieu. »«
Ah, je sais !» s'exclama l'aveugle avec un mouvement de satisfaction. « C'est le pont neuf et la statue est celle de Henri IV. »
Et elle ajouta en baissant la voix.
Papa nous en parlait souvent. Il disait que de là on apercevait deux tours noires. Oui, en effet, les voilà, les tours de Notre-Dame. Oh, comme elles sont grandes et belles!
Que tu es heureuse! Tu peux admirer ces vieilles tours qui me rappellent tant de chers souvenirs, tandis que moi, je ne les verrai peut-être jamais.
Si, fais, tu les verras.
Notre-Dame, tiens, sens mon cœur, sens comme il bat. C'est là qu'avait été déposé mon berceau, chère Henriette. C'est là que j'ai été recueillie par ton père. Sans lui, j'allais mourir de froid et de faim. Et cela eût peut-être mieux valu. Je ne serais pas devenue une pauvre aveugle.
Tais-toi, Louise. N'attriste pas notre arrivée. Nous sommes parties si joyeuses. Oui, crois-moi, toutes nos espérances seront bientôt réalisées. Paris rendra aux grands yeux de ma Louise toute leur beauté, tout leur éclat d'autrefois.
Dieu le veuille, soupira l'aveugle. Puis, comme si une idée nouvelle lui eût subitement traversé l'esprit pour y réveiller l'inquiétude. Tu vois bien, petite sœur, que ce monsieur Martin n'arrive pas. Henriette ne pouvait se défendre elle-même d'un commencement d'anxiété.
si j'allais m'informer au bureau pour savoir si quelqu'un n'est pas déjà venu nous demander ?
C'est une bonne idée. Et déjà Henriette s'était levée lorsque l'aveugle, s'accrochant à son bras, lui dit
« Ne me laisse pas seule sur ce banc !»«
Eh bien, viens, peureuse !»
Les deux jeunes filles, l'une guidant l'autre, entrèrent dans le bureau. Au même moment, la fleur, qui depuis quelque temps se tenait aux environs, passa rapidement devant la porte du bureau, y jeta un coup d'œil et se dirigea vers un point du quai où l'attendait un individu qui, lui aussi, avait fort habilement dissimulé sa présence aux deux voyageuses du coche.
« Eh bien, la fleur, tu vois, je suis, malgré tes recommandations, venu donner mon coup d'œil du maître. »«
C'est peut-être une imprudence, monsieur le marquis. Pensez donc si cette jeune personne allait vous apercevoir et vous reconnaître. »«
Que veux-tu, la fleur? Je ne tiens plus en place. Je grille d'impatience. »«
C'est que j'ai le cœur pris, vois-tu.
Alors, tu es certain du succès ?»«
Absolument certain, monsieur le marquis. »«
Tu me le jures sur ta tête ?»
Monsieur le marquis peut compter sur moi.
C'est la plus grande des deux, hein. Ne va pas te tromper au moins.
Je sais quel est le bon gibier, ricana le valet.
Mais pour Dieu, monsieur le marquis, retirez-vous. Voici ces demoiselles qui sortent du bureau.
C'est le moment propice.
Soit, je me retire.
Sois habile, la fleur. Pense que c'est mon bonheur que tu tiens entre tes mains, ajouta monsieur Presles en s'esquivant.
Je connais ça. Gredin de marquis, je connais ça, un bonheur de 8 jours au plus, après quoi tu trouveras que le tendron n'est plus tendre et qu'il faut donner un aliment nouveau à ton cœur volage. Mais enfin, tu me paies et je te sers. Tu me fais commettre une action coupable, brigand. Mais c'est toi, je l'espère bien, qui porteras le péché.
Tout en monologuant de la sorte, la fleur s'était avancée à pas de loup, près du banc sur lequel Henriette et Louise étaient venues reprendre leur place. Mais au moment où il allait se présenter devant les deux jeunes filles, il s'arrêta tout court. Une femme courait sur le pont, se dirigeant vers les deux voyageuses.
« Bigre !» pensa le valet du marquis de Presles. « Voilà un contretemps qui va m'obliger à retarder ma présentation. »
Et se glissant tout le long du quai, il alla se mettre à l'affût, à l'entrée d'une petite ruelle, où il se tint silencieux, l'œil fixé sur les deux jeunes filles, qui étaient toujours assises sur le banc.